RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 9,5-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, serviteurs et serviteurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'investissement dans le secteur réel est la clé pour atteindre l'objectif économique de l'Indonésie 2018. Le camp d'entraînement national au Pelatnas se tient à Solo pour affronter les Jeux Paralympiques Asiatiques 2018. Le remaniement du cabinet, le président Joko Widodo inaugure Idrus remplaçant Khofifah. Le ministre de l'Industrie souhaite que Bandung Technopark puisse devenir Silicon Valley d'Indonésie. La Banque islamique de développement lance le fonds de sciences et technologies de 500 millions de dollars américains. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Eni Srihartati, la directrice de l'Institut pour le développement de l'économie et des finances, ou INDEF, a déclaré que la croissance économique de l'Indonésie en 2018 pourrait dépasser l'objectif du gouvernement de 5,4%. Dans une interview avec la Voix de l'Indonésie mardi 16 janvier, elle a expliqué qu'en 2017, la croissance des pays voisins tels que le Vietnam, Singapour, les Philippines et la Malaisie s'améliore. L'amélioration de la situation de l'économie externe a stimulé l'optimisme et montré une reprise de l'économie mondiale. Selon Eni Srihartati, l'Indonésie a la source potentielle d'une croissance économique extraordinaire. La population de l'Indonésie, qui atteint plus de 265 millions de personnes, est une énorme source de consommation pour les ménages. Le potentiel des ressources et des marchés, l'Indonésie est mieux que les autres pays de l'ASEAN, mais il y a encore des défis, tels que le ralentissement de la consommation des ménages et le chiffre de réalisation pour l'investissement qui est encore limité. L'augmentation des investissements peut soutenir l'accélération de la croissance économique de l'Indonésie.
PR di 2018, bagaimana segera pemerintah melakukan pemulihan.
Le devoir en 2018 est le gouvernement doit récupérer le pouvoir d'achat public. La seconde est de concrétiser l'engagement des investisseurs à investir dans le secteur réel. La clé est l'investissement dans le secteur réel parce que si on seulement entre dans un portefeuille comme 2017, n'a pas eu un impact significatif ou une contribution significative à l'accélération de la croissance économique. Eni a aussi dit que l'efficacité des dépenses du gouvernement donnait également un impact significatif pour la croissance économique. Le gouvernement possède un budget plus de 2 000 trillions rupiah. L'achat de biens environ 400 trillions peut être utilisé pour absorber les produits nationaux et peuvent développer l'industrie indonésienne. Un autre fonds villageois peut également être utilisé pour améliorer les produits ruraux. Ainsi, les produits ruraux peuvent répondre à la demande intérieure, même pour l'exportation. Eni Sri Hartati, Directrice de l'Institut pour le développement de l'économie et des finances au INDEF, a déclaré que la croissance économique de l'Indonésie en 2018 pourrait dépasser l'objectif du gouvernement de 5,4%. Des centaines d'athlètes du Comité national paralympique ou CNP d'Indonésie ont commencé à participer au camp d'entraînement national au Platnas à Solo lundi 15 janvier. La formation qui a lieu dans divers lieux avait pour but de préparer les Jeux para-asiatiques 2018 qui se tiendront à Jakarta en octobre. Le président de CNP de l'Indonésie, Seni Marbun, a déclaré lundi à Solo que Platnas à Solo dureront 10 mois jusqu'à 15 jours avant le match. Selon lui, concernant la cible de CNP de l'Indonésie lancée par le président Joko Widodo, ils feront au maximum. C'est le défi, nous devons faire au maximum parce que c'est l'instruction du président. Nous essaierons d'atteindre la cible au maximum. Seni Marbun a ajouté que le contingent de CNP de l'Indonésie devait gagner environ 23 médailles d'or pour atteindre le top 5 de l'Asie. Selon lui, l'Indonésie possède une opportunité d'obtenir des médailles dans la branche sportive de badminton, natation, échecs, tennis de table, athlétisme et le basse-blur. Aux Jeux paralympiques Asie 2018 Jakarta, le contingent de CNP de l'Indonésie suivra les 18 branches sportives contestées. Parmi les 18 branches, 5 sont de nouveaux sports comme le basketball et fauteuil roulant, l'escrime, la boccia, judo et cyclisme. Le président Joko Widodo a officiellement remanié le cabinet de travail mercredi 17 janvier. Le chef de l'État remplace Khofifah Indar Parawansa de son poste de ministre des Affaires sociales qui a été remplacé par Idrus Marham, qui a précédemment servi comme secrétaire général du parti Golkar. Outre Idrus, un autre nom qui a été inauguré mercredi par Joko Widodo est le général de TNI à la retraite, Muldoko, qui occupait le poste de chef d'état-major présidentiel remplaçant Teten Mas Duki, tandis que le général TNI retraité Agum Gumelar est inauguré par le président Jokowi et devenu membre du conseil consultatif présidentiel remplaçant le défunt Hashim Muzadi. Dans le même temps, le chef de l'État a également inauguré le maréchal Madya Yuyu Sutisna en tant que nouveau chef d'état-major de l'armée de l'air, remplaçant le maréchal Hadi Cahyanto. Lorsqu'il a rencontré les journalistes, Idrus Marham a déclaré qu'il était prêt à accomplir la tâche comme ministre des Affaires sociales, remplaçant Khofifah. Comme on le sait, Khofifah a démis de ses fonctions comme ministre des Affaires sociales pour participer à l'élection au poste de gouverneur dans l'est de Java. Cependant, l'opposition Erlangga Hartarto, qui a servi comme président du parti Golkar, survivra encore dans le cabinet de travail en tant que ministre de l'Industrie. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministre de l'Industrie Erlangga Hartarto à Bandung, Java West, mardi a souhaité que le Centre de Technologie et d'Innovation de Bandung Technopark puisse accueillir des sociétés technologiques et une entreprise pionnière mondiale à San Francisco, aux États-Unis, c'est Silicon Valley version l'Indonésie. Erlangga veut former un écosystème basé sur les technologies de l'information en Indonésie afin qu'il puisse créer de nouveaux entrepreneurs avec les start-up d'affaires variées. Par conséquent, selon lui, le ministère de l'Industrie va renforcer et encourager l'existence de Bandung Technopark pour devenir des modèles pour le développement d'autres endroits similaires dans le pays. Bandung Technopark peut également être un cluster industriel afin que les entreprises multinationales dans le domaine de l'électronique et de télématique puissent rejoindre pour former une zone de son écosystème innovant. La Banque Islamique de Développement a lancé un programme de transformation de 500 millions de dollars américains pour financer la science, la technologie et l'innovation. Le Dr Hayat Sindi, conseiller principal en technologie et innovation, du président du groupe de la BID, Dr Hayat Sindi, a dit cette question mardi après avoir donné une conférence à l'Université islamique internationale de la Malaisie, Kuala Lumpur, en Malaisie, mardi 16 janvier. Dans la présentation sur le thème « L'implication dans le développement, changer la vie par la science, la technologie et l'innovation », a été assisté par le directeur des BID régionales de la Malaisie, originaire d'Indonésie, M. Kunrat Wirasubrata, et des responsables de l'université. Hayat a dit que Transformer fournit un mécanisme de financement pour transformer la vie de millions de personnes à travers le pouvoir de la science, de la technologie et de l'innovation, qui est aussi une icône de la tendance de progrès du développement de la Malaisie. Il a dit que le programme de financement était ouvert pour l'individu, institutions gouvernementales et le secteur privé commercial de tous les pays membres de la BID, y compris l'Indonésie. À la même occasion, le directeur de la BID de la région de la Malaisie, Kunrat Wirasubrata, a déclaré que depuis 42 ans, la BID a canalisé les fonds plus de 120 milliards de dollars américains vers 57 pays membres. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Le sommet de Vancouver sera-t-il une solution au conflit de la péninsule coréenne ?» Au moins 20 pays depuis lundi ont commencé le sommet sur le conflit des deux Coréens à Vancouver, le Canada. Lors d'une réunion initiée par les États-Unis et le Canada, le début de négociations est toujours axé sur l'imposition de sanctions à la Corée du Nord pour ses activités d'essai nucléaire. C'est peut-être pourquoi la Chine n'a pas assisté à la réunion à Vancouver. Comme on le sait, Pékin est un allié clé et un partenaire commercial majeur de la Corée du Nord, ne participera pas à la conférence. L'attitude du gouvernement à Pékin de ne pas assister à la réunion peut-être causée par la déclaration de l'autre, telle que les États-Unis et au Japon, avant la conférence, qui ont confirmé que la conférence se concentrera sur l'imposition des sanctions à la Corée du Nord et n'est pas de trouver une solution au conflit dans des nations qui vivent sur la même péninsule. Des sources gouvernementales japonaises ont déclaré que les pays du monde devaient forcer le gouvernement nord-coréen. Selon un responsable japonais, la solution consiste à maximiser la pression par tous les moyens disponibles, y compris en appliquant intégralement les solutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. En effet, depuis le sommet de Vancouver, il est encore possible de trouver une autre solution qui mène au mouvement de la paix les deux Corées. Lors de la conférence, la ministre des Affaires étrangères du Canada, Chrystia Freeland, comme rapporté par la Voix du Vietnam, a mené des pourparlers avec son homologue sud-coréen Kyung Wha sur diverses questions, y compris les relations bilatérales. En marge du sommet hier, la ministre des Affaires étrangères Freeland a déclaré la possibilité d'une solution diplomatique pour résoudre le problème des essais nucléaires nord-coréen. Le même jour, le ministre Freeland a tenu une réunion séparée avec le ministre japonais des Affaires étrangères, Taro Kono. De ces faits, il y a des efforts de résoudre la crise de la Corée du Nord et du Sud par une approche diplomatique. Les efforts d'une solution diplomatique sont toujours ouverts. La Corée du Nord et la Corée du Sud, le mardi 9 janvier, ont atteint un point de vue similaire sur la nécessité de négociations militaires pour apaiser les tensions entre les deux pays. Comme indiqué par BBC, la Corée du Sud a demandé à la Corée du Nord de mettre fin aux actes hostiles qui pourraient aggraver les tensions, tandis que la Corée du Nord a convenu d'avoir besoin d'une atmosphère pacifique dans la péninsule coréenne. Si le sommet de Vancouver résultera un accord qui peut aider les deux Coréens à résoudre leurs problèmes, très probablement, la clé est aux États-Unis qui devient l'hôte avec le Canada. Si Washington persiste dans son attitude, les efforts diplomatiques sont difficiles à réaliser. En fait, le changement de l'attitude de Washington très probablement va changer la position de Pékin qui est le principal allié de Pyongyang. La question des deux Corées ne peut pas être séparée de l'influence des États-Unis et de la Chine. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Serviteur, bonsoir. Voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement. La première réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies a eu lieu le 17 janvier 1946. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est l'organe exécutif de l'Organisation des Nations Unies, ONU. Il est défini comme ayant la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale, selon la Charte des Nations Unies, et dispose pour cela de pouvoirs spécifiques tels que le maintien de la paix, l'établissement des sanctions internationales et l'intervention militaire. Certaines décisions, appelées résolutions du Conseil de sécurité en force exécutoire, et les membres de l'organisation conviennent accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité. Il se réunit au siège des Nations Unies à New York après avoir siégé dans différentes capitales telles que Paris ou Addis Abeba. Ses membres doivent y être présents en permanence, du fait que le Conseil peut être réuni à tout moment, notamment en cas de crise exceptionnelle, ce que ne permettait pas la Charte de la Société des Nations. Le Conseil de sécurité est composé de 15 membres, 5 permanents pourvus du droit de veto, comme Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie, et 10 élus pour une durée de 2 ans, renouvelée par moitié tous les ans. La première session du Conseil de sécurité s'est tenue le 17 janvier 1946 dans le bâtiment Church House à Londres. Depuis, les séances du Conseil de sécurité ont lieu au siège de l'ONU à New York. L'autre information est sur la signature de l'accord de Renville le 17 janvier 1948. L'accord de Renville est un accord entre l'Indonésie et les Pays-Bas signé le 17 janvier 1948 sur la plateforme du navire de guerre américain l'USS Renville, ancré dans le port de Tanjung Priok, Jakarta. Les pourparlers ont commencé le 8 décembre 1947 et négociés par la Commission des Trois Nations, Committee of Good Office for Indonesia ou Commission d'Office pour l'Indonésie, qui consiste les États-Unis, l'Australie et la Belgique. Le contenu de l'accord de Renville est les Pays-Bas ne sont que neutrales, Yogyakarta et Sumatra, une partie du territoire de la Russie. On est d'accord sur une ligne de démarcation séparant les zones de l'Indonésie et les zones occupées les Pays-Bas. Les forces armées indonésiennes devraient être retirées des zones de poche dans les territoires occupés à Java Ouest et Java Est. Finissons l'histoire aujourd'hui avec l'événement, le séisme de 1995 à Kobe. Le 16 mai 1995 à Kobe, au grand tremblement de terre de Hanshin Awaji, a touché la région de la ville de Japon le 17 janvier 1945 local et d'une magnitude de 6,9 sur l'échelle de Richter. Le décompte officiel des conséquences de ce séisme se chiffre à 6437 morts, 43 792 blessés et des dégâts matériels se chiffrant à plus de 10 000 milliards de yens, soit 101 milliards d'euros. ont de nombreux 120 000 bâtiments détruits ou endommagés et 7 000 brûlés. La destruction des polders du port de Kobe est plus de 250 000 déplacés pendant plusieurs mois. De plus, l'électricité a été coupée pendant une semaine. Le retour de l'eau et du gaz et des égouts n'a pas eu lieu avant plusieurs mois, mais la ville a été reconstruite en peu d'années. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel de titre de l'actualité, nous vous présentons d'abord Mon Indonésie.
Indonésiaku, Mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers amis, nous continuons notre programme avec Mon Indonésie ayant pour le titre « Les vols d'Indonésie sont prêts à faire face à l'évaluation de l'Union européenne ». Le directeur général des transports aériens du ministère des Transports, Agus Santoso, a rassemblé les opérateurs de vol en Papouasie au bureau de l'organisateur de l'aéroport de Sentani dimanche. L'objectif est de fournir des orientations et des discussions sur l'amélioration de la sécurité aérienne en Papouasie. Il est accompagné du directeur de la navigabilité opérationnelle, Muzaffar Ismail. Ils ont rassemblé 5 compagnies aériennes régulières, 20 compagnies aériennes non planifiées et 6 compagnies aériennes de mission sociale opérant en Papouasie. Muzaffar a déclaré que l'une de ses activités était pour préparer l'évaluation de l'Union européenne du 12 au 21 mars. L'Union européenne prévoit d'effectuer des évaluations de vols en Papouasie et dans plusieurs compagnies aériennes, à savoir Sriwijaya Air, Lion Air, Batik Air, Wings Air, Indonesia Air Asia X et Spirit Aviation Sentosa. L'Indonésie a réussi à augmenter le niveau de catégorie de la catégorie 2 à la catégorie 1 de l'autorité aéronautique de l'administration des États-Unis. De l'agence de l'aviation civile du monde, l'Indonésie obtient la valeur de 81,15%. Ce chiffre dépasse la moyenne valeur du monde qui est seulement 63%. Selon lui, avec cette réalisation, l'Indonésie a suffisamment de stocks pour faire face à l'évaluation de l'Union européenne. Le directeur général Agus Santoso a déclaré que l'Indonésie cherchait à obtenir la reconnaissance de l'Union européenne. La reconnaissance est nécessitée pour qu'il n'y ait pas de vol d'Indonésie qui est interdit d'entrer en Europe. Pour tester cette année, l'Union européenne a choisi la région de Papouasie. La raison est le nombre d'aéroports à Papua et le tiers du nombre total d'aéroports en Indonésie. En outre, pour que les aéroports en Papouasie soient développés comme les aéroports dans d'autres parties de l'Indonésie occidentale. Les aspects à évaluer comprennent la réglementation, l'aéroport, la compagnie aérienne et la navigabilité. Pendant ce temps, Novi Rianto, le président directeur de l'entreprise publique des services de navigation aérienne indonésien, a déclaré que sa partie améliore continuellement son service en guidant le trafic aérien à travers les derniers instruments de procédure et de technologie. Ceci est fait pour améliorer la sécurité et l'efficacité du vol. Serviteur, c'était Mon Indonésie pour ce soir.
Eni Sri Hartati, la directrice de l'Institut pour le développement de l'économie et des finances, ou INDEF, a déclaré que la croissance économique de l'Indonésie en 2018 pourrait dépasser l'objectif du gouvernement de 5,4%. Dans une interview avec La Voix de l'Indonésie mardi 16 janvier, elle a expliqué qu'en 2017, la croissance des pays voisins tels que le Vietnam, Singapour, les Philippines et la Malaisie s'améliore. L'amélioration de la situation de l'économie externe a stimulé l'optimisme et montré une reprise de l'économie mondiale. Selon Eni Sri Hartati, l'Indonésie a la source potentielle d'une croissance économique extraordinaire. La population de l'Indonésie, qui atteint plus de 265 millions de personnes, est une énorme source de consommation pour les ménages. Le potentiel de ressources et des marchés, l'Indonésie est mieux que les autres pays de l'ASEAN, mais il y a encore des défis tels que le ralentissement de la consommation des ménages et le chiffre de réalisation pour l'investissement qui est encore limité. L'augmentation des investissements peut soutenir l'accélération de la croissance économique de l'Indonésie.
PR di 2018, bagaimana segera pemerintah melakukan
Le devoir en 2018 est le gouvernement doit récupérer le pouvoir d'achat public. La seconde est de concrétiser l'engagement des investisseurs à investir dans le secteur réel. La clé est l'investissement dans le secteur réel parce que si on seulement entre dans un portefeuille comme 2017, n'a pas eu un impact significatif ou une contribution significative à l'accélération de la croissance économique. Eni a aussi dit que l'efficacité des dépenses du gouvernement donnait également un impact significatif pour la croissance économique. Le gouvernement possède un budget plus de 2 000 trillions de rupiah. L'achat de biens environ 400 trillions peut être utilisé pour absorber les produits nationaux et peuvent développer l'industrie indonésienne. En outre, les fonds villageois peuvent également être utilisés pour améliorer les produits ruraux. Ainsi, les produits ruraux peuvent répondre à la demande intérieure, même pour l'exportation. Eni Sri Hartati, directrice de l'Institut pour le développement de l'économie et des finances, ou INDEF, a déclaré que la croissance économique de l'Indonésie en 2018 pourrait dépasser l'objectif du gouvernement de 5,4%. Des centaines d'athlètes du Comité national paralympique ou CNP d'Indonésie ont commencé à participer au camp d'entraînement national au Pelatnas à Solo lundi 15 janvier. La formation qui a lieu dans divers lieux avait pour but de préparer les Jeux para-asiatiques 2018 qui se tiendront à Jakarta en octobre. Le président de CNP de l'Indonésie, Seni Marbun, a déclaré lundi à Solo que Pelatnas à Solo dureront 10 mois jusqu'à 15 jours avant le match. Selon lui, concernant la cible de CNP de l'Indonésie lancée par le président Joko Widodo, ils feront au maximum. C'est le défi, nous devons faire au maximum parce que c'est l'instruction du président. Nous essaierons d'atteindre la cible au maximum. Seni Marbun a ajouté que le contingent de CNP de l'Indonésie devait gagner environ 23 médailles d'or pour atteindre le top 5 de l'Asie. Selon lui, l'Indonésie possède une opportunité d'obtenir des médailles dans la branche sportive de badminton, natation, échecs, tennis de table, athlétisme et le basse-boulard. Aux Jeux paralympiques Asie 2018 Jakarta, le contingent de CNP de l'Indonésie suivra les 18 branches sportives contestées. Parmi les 18 branches, 5 sont de nouveaux sports comme le basketball et fauteuil roulant, l'escrime, la boccia, judo et cyclisme. Le président Joko Widodo avait seulement remanié le cabinet de travail mercredi 17 janvier. Le chef de l'État remplace Khofifah Indar Parawansa de son poste de ministre des Affaires sociales qui a été remplacé par Idrus Marham, qui a précédemment servi comme secrétaire général du parti Golkar. Outre Idrus, notre nom qui a été inauguré mercredi par Joko Widodo est le général de TNI à la retraite, Muldoko, qui occupait le poste de chef d'état-major présidentiel remplaçant Teten Masduki, tandis que le général TNI retraité Agum Gumelar est inauguré par le président Jokowi et devenu membre du conseil consultatif présidentiel remplaçant le défunt Hashim Mozadi. Dans le même temps, le chef de l'État a également inauguré le maréchal Madia Yuyu Sutisna en tant que nouveau chef d'état-major de l'armée de l'air, remplaçant le maréchal Hadi Cahyanto. Lorsqu'il a rencontré les journalistes, Idrus Marham a déclaré qu'il était prêt à accomplir la tâche comme ministre des Affaires sociales, remplaçant Hovifah. Comme on le sait, Hovifah a démis de ses fonctions comme ministre des Affaires sociales pour participer à l'élection au poste de gouverneur dans l'est de Java. Cependant, l'opposition Erlangga Hartarto, qui a servi comme président du parti Golkar, survivra encore dans le cabinet de travail en tant que ministre de l'Industrie. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministre de l'Industrie Erlangga Hartarto à Bandung, Java West, mardi a souhaité que le Centre de technologie et d'innovation de Bandung Technopark puisse accueillir des sociétés technologiques et une entreprise pionnière mondiale à San Francisco, aux États-Unis, c'est Silicon Valley version l'Indonésie. Erlangga veut former un écosystème basé sur les technologies de l'information en Indonésie afin qu'il puisse créer de nouveaux entrepreneurs avec les start-up d'affaires variées. Par conséquent, selon lui, le ministère de l'Industrie va renforcer et encourager l'existence de Bandung Technopark pour devenir des modèles pour le développement d'autres endroits similaires dans le pays. Bandung Technopark peut également être un cluster industriel afin que les entreprises multinationales dans le domaine de l'électronique et de télématique puissent rejoindre pour former une zone de son écosystème innovant. La Banque islamique de développement a lancé un programme de transformation de 500 millions de dollars américains pour financer la science, la technologie et l'innovation. Le Dr Hayat Sindi, conseiller principal en technologie et innovation du président du groupe de la BID, Dr Hayat Sindi, a dit cette question mardi après avoir donné une conférence à l'Université islamique internationale de la Malaisie, Kuala Lumpur, en Malaisie, mardi 16 janvier. Dans la présentation sur le thème « L'implication dans le développement, changer la vie par la science, la technologie et l'innovation » a été assisté par le directeur des BID régionales de la Malaisie, originaire d'Indonésie, M. Kundrat Wirasubrata, et des responsables de l'université. Hayat a dit que Transformer fournit un mécanisme de financement pour transformer la vie de millions de personnes à travers le pouvoir de la science, de la technologie et de l'innovation, qui est aussi une icône de la tendance de progrès du développement de la Malaisie. Il a dit que le programme de financement était ouvert pour l'individu, institutions gouvernementales et le secteur privé commercial de tous les pays membres de la BID, y compris l'Indonésie. À la même occasion, le directeur de la BID de la région de la Malaisie, Kundrat Wirasubrata, a déclaré que depuis 42 ans, la BID a canalisé les fonds plus de 120 milliards de dollars américains vers 57 pays membres. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, encore merci de votre fidélité d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers auditeurs, bienvenue dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, les arts, les alimentations et la culture de diverses régions de l'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous vous inviterons au sud de Sulawesi. L'Indonésie est un pays archipelagique qui a la beauté de la nature. La beauté de la nature est parfois cachée derrière la forêt ou dans les coins. L'une d'elles se trouve dans la province de Sulawesi du Sud. Cet endroit est la plage d'Apakalang. Contrairement à d'autres plages, la plage d'Apakalang est située au bord d'une falaise abrupte. Pour cette raison, il s'appelle la falaise d'Apakalang. Les gens locaux font généralement l'attraction en sautant de la falaise à la mer. Si vous êtes intéressé, le touriste peut également tester l'adrénaline en sautant de la falaise. Mais il n'est pas inquiet pour les touristes qui veulent aller à la mer, mais ils ont peur de sauter. Il y a un escalier vers la mer. L'eau de la mer claire rend le touriste facile à voir son fond. En plus de la baignade, les touristes peuvent également faire la plongée en apnée pour profiter de l'état de la plage. Serviteurs, à la plage d'Apakalang, vous n'avez pas à vous inquiéter du manque de nourriture et de boissons, parce qu'il y a beaucoup de restaurants qui fournissent des aliments délicieux avec des prix bon marché. Au restaurant, vous pouvez déguster les poissons frais pêchés par les pêcheurs locaux. En outre, cette plage est également complétée avec facilité pour les touristes, entre autres, gazebo, salle de repos et boutique de souvenirs. La plage d'Apakalang est située au village Ara, sous-communauté de Banto Bahari, la résidence de Bulukumba, Sulawesi du Sud. Pour visiter ce lieu, il est conseillé aux touristes d'utiliser un véhicule privé ou de louer une voiture, car il n'y a pas encore de transport en commun. Nous suggérons également d'embaucher un guide parce que le voyage est assez déroutant si vous faites seul. Pour visiter la plage de la ville de Makassar, vous devez prendre le sud avec la distance d'environ 4h30. Ensuite, le voyage se poursuit vers la baie de Bira et jusqu'au village d'Ara. Lors d'arriver au village d'Ara, pas longtemps, le touriste arrivera à la plage d'Apakalang. Serviteurs, c'était le magazine culture pour aujourd'hui avec le titre « La plage d'Apakalang dans le sud de Sulawesi ». Merci d'avoir écouté et à bientôt.
Et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Apprendre l'indonésien. Nous continuons notre mission avec un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler l'indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie et l'Agence pour le développement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est transportasi. Je répète, transportasi en français, le transport. D'abord, je vais introduire le vocabulaire et expressions reliant au sujet d'aujourd'hui. Transportasi. Transportasi. en français, le transport. Kota Jogja. Kota Jogja. En français, la ville de Jogja. Transportasi umum. Transportasi umum. En français, le transport public. Trans Jogja. Trans Jogja. En français, le Trans Jogja. Taxi. Taxi. En français, le taxi. Kereta. Kereta. En français, le train. Bis kota. Bis kota. En français, l'autobus de ville. Taxi online. Taxi online. En français, le taxi en ligne. Saya dengar. Saya dengar. En français, j'entends. Becak. Becak. En français, le cyclopus. Terima kasih. Terima kasih. En français, merci. Informasi. Informasi. En français, l'information. Et ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre transportation ou en français le transport. Comme d'habitude, je vais prononcer lentement phrase par phrase deux fois. Vous pouvez répéter après moi. C'est une conversation entre la police A et le touriste étranger B. A. Permisi Pak. Apakah di kota Yogyakarta ada transportasi umum? Permisi Pak, apakah di kota Yogyakarta ada transportasi umum? En français, excusez-moi monsieur, y a-t-il de transport public à Yogyakarta? B. Ya, ada. Ya, ada. En français, oui, ça existe. A. Ada apa saja? Ada apa saja? En français, quoi de neuf? B. Ada Trans Jogja, taksi, kereta, bis kota, dan taksi online. Ada Trans Jogja, taksi, kereta, bis kota, dan taksi online. En français, il y a le Trans Jogja, le taxi, l'autobus de ville et le taxi en ligne. A. Saya dengar di sana juga ada becak. Saya dengar di sana juga ada becak. En français, j'entends qu'il y a aussi le cyclopus là-bas. B. Ya, di sana juga ada becak. Ya, di sana juga ada becak. En français, oui, là-bas il y a aussi le cyclopus. A. Terima kasih informasinya. Terima kasih informasinya. En français, merci pour les informations. Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'Indonésie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt. Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Couleur du son. Programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir tous les auditeurs du service mondial de RRI La Voix de l'Indonésie. On se retrouve dans la rubrique du magazine musical. Dans cette édition, nous allons vous fournir des chansons du groupe musical Abdul and the Coffee Theory. Comme ouverture, je vous présente la chanson intitulée Aimable. Bonne écoute.
ku sering mengeluh tentang semua tingkah lakumu, maunya selalu mengatur aku. Tapi kau sangat perhatian, apapun yang aku lakukan, kau ingatkan ku jangan lupa makan. Karena kamu so lovable buat aku, karena kamu so lovable buat aku, karena kamu so lovable buat aku, karena kamu so lovable buat aku. Walaupun kamu sangat bawel, komentarin ku ini itu, dan ku tak tahu apa maumu. Kadang bajuku kurang rapi, kadang sepatuku kurang matching, atau rambutku yang berantakan. Tapi kamu soleh aku, tapi kamu so lovable buat aku, tapi kamu so lovable buat aku, tapi kamu so lovable buat aku. Tak pernah bosan dengan kamu, jangan engkau rubah apapun tentang kamu.
Serutak, voilà la chanson intitulée Aimable. Abdul and the Coffee Theory est un groupe de musique initié par Tengku Muhammad Abdullah Amin Ashari, ou plus célèbre sous le nom Abdul. Abdul, qui était soliste, a choisi de former un groupe depuis 2008. Les membres de ce groupe sont Abdul comme chanteur, André Chilling batteur, André Cooper bassiste, Horace saxophoniste. Le genre de la musique de ce groupe est pop et jazz. Serviteurs, avant de connaître plus loin Abdul and the Coffee Theory, nous vous présentons une chanson intitulée Heureux et simple. Bonne écoute.
Mmh.
Serjetor, c'était la chanson dont le titre est Heureux et simple d'Abdul and the Coffee Theory. En plus de leur agréable musique de jazz, leurs paroles faciles à comprendre deviennent la caractéristique de ce groupe. Des paroles simples avec un sens profond de l'amour peuvent être trouvées dans 5 albums et 4 singles d'Abdul and the Coffee Theory. Presque tous leurs œuvres principaux que vous pouvez écouter en visitant les cafés indonésiens. Le succès de ce groupe n'est pas seulement obtenu par les chansons qu'ils jouent. Les chansons composées par Abdul comme chanteur pour d'autres chanteurs indonésiens sont également très réussies, comme Moving On ou Passer à autre chose, chanté par Andine, et Just For You ou Juste Pour Toi par Dinda avec Abdul and the Coffee Theory. Bon, serviteur, avant de terminer notre programme aujourd'hui, nous vous donnons deux chansons intitulées « Être en colère toujours » et « Juste pour toi ». Bonne écoute et à la prochaine.
Suasana yang romantis berubah jadi ironis yang harusnya carinya. Segala cara telah ku coba, gaya badut sampai Sri Mulat yang harusnya jadinya. Semua yang benar jadi salah hari pertama. Jangan dibang,
jangan dibang,
jangan dilawan,
jangan dilawan,
dan jangan dimasukin ke perasaan.
Semua yang benar jadi salah hari pertama. PMS hanya satu kali dalam sebulan, cuma satu kali dalam sebulan. Segala cara telah ku coba, gaya badut sampai Srimulat yang harusnya jadinya. Semua yang benar jadi salah hari pertama. PMS jangan dibantah,
jangan dibantah,
jangan dilawan,
jangan dilawan,
dan jangan dimasukin ke perasaan. Semua yang benar jadi salah hari pertama.
PMS
hanya satu kali dalam sebulan, cuma satu kali dalam sebulan, hanya satu kali dalam sebulan. Maklumin aja, ikhlasin aja, jangan dilawan, oh, ikhlasin aja, maklumin aja.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, La Voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.